Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes venus vous mettre à l'ombre. Les Français chérissent la liberté comme la valeur suprême de la République. Pourtant, la République a le pouvoir de priver ceux qui transgressent ses lois. Depuis l'abolition de la peine de mort en 1981, la prison est considérée par beaucoup comme la sanction par excellence des crimes de sang et de mœurs, mais aussi de beaucoup de délits moins graves. Les murs des prisons sont souvent présentés et perçus comme les meilleurs remparts contre les criminels et les délinquants. Au 1er avril 2019, un nouveau record historique a été battu avec un total de 71 828 personnes détenues dans les prisons françaises, soit une augmentation de 28% en 15 ans. La surpopulation et les conditions de détention indignes dans certaines prisons sont régulièrement dénoncées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et par les ONG de défense des droits de l'homme. Pourtant, les chiffres de la récidive mettent en doute l'efficacité dissuasive de la détention. Bon nombre d'acteurs judiciaires, pénitentiaires, politiques, associatifs s'interrogent de plus en plus sur la politique sécuritaire du tout carcéral qui prévaut en France. Ils préconisent de recourir davantage aux peines alternatives en milieu ouvert qui favorisent la réinsertion. Nos voisins allemands, danois et néerlandais ont ainsi obtenu des résultats probants et ferment des prisons. La réforme de la loi pénale de 2014 va dans ce sens, mais son application a encore du mal à entrer dans les faits. De nouveaux textes viennent de la renforcer début 2019. Cette photographie du paysage carcéral m'amène à formuler six grands questionnements qui serviront de fil rouge à mon propos. Je les soumets dès maintenant à votre réflexion, en prévision des échanges que nous aurons tout à l'heure. Premier questionnement, quel regard portons-nous individuellement et collectivement sur la prison et sur les personnes détenues? Deuxième questionnement, quelle peut être l'utilité et le sens d'une peine de privation de liberté pour un condamné, pour sa ou ses victimes, pour la société? Troisième questionnement, comment les personnes en détention peuvent-elles se relever, s'amender, se reconstruire et préparer leur réinsertion? Quatrième questionnement, que penser des peines alternatives à la prison? Cinquième questionnement, quel est aujourd'hui l'avenir d'un sortant de prison dans notre société? Et sixième questionnement, quel rôle peuvent jouer les aumôneries et les communautés chrétiennes pour l'accompagnement et la réinsertion des personnes détenues? Je vous rappellerai ces questions à la fin. Ces questions sont vastes et difficiles. Elles interrogent à la fois le simple citoyen, les responsables politiques, les acteurs du monde judiciaire et pénitentiaire, les ONG et associations d'aide aux victimes et aux prisonniers, et les églises. Pour ma part, je précise que je ne suis ni juriste, ni criminologue, ni expert judiciaire. Je m'exprimerai en tant qu'ancien aumônier de prison. J'ai fait partie pendant 8 ans de l'aumônerie catholique du centre pénitentiaire de Toulouse-Seix, où j'ai accompagné des personnes en détention provisoire ou définitive. Je précise que je ne suis pas prêtre, ni religieux, mais laïc, marié, père de 3 enfants et grand-père. Actuellement, les 2/3 des aumôniers catholiques sont des laïcs, hommes et femmes. J'ai pris cet engagement inattendu au début de ma retraite, à la suite d'un concours de circonstances et de rencontres qui m'ont conduit à discerner un appel. Mon expérience personnelle est forcément limitée, mais j'ai pu l'enrichir auprès des autres aumôniers lors des rencontres de notre équipe locale et de sessions de formation régionale et nationale. J'ai appris aussi d'autres intervenants pénitentiaires, des surveillants, psychologues, conseillers d'insertion ou travailleurs sociaux. Je vous propose d'aborder successivement trois grands thèmes. Premier thème, à quoi sert la prison ? Nous interrogerons le code pénal pour connaître les objectifs que la société assigne à la peine de privation de liberté. Deuxième thème, l'épreuve carcérale. J'essaierai de vous partager ce que j'ai pu apprendre au contact des personnes détenues. Je le ferai bien sûr dans le respect de la confidentialité que je leur dois. Troisième thème, du relèvement à la réinsertion. Nous essaierons de voir comment l'épreuve de la détention peut devenir un chemin de relèvement, de réhabilitation et de réinsertion. À quoi sert la prison ? Il n'est pas facile de répondre à cette question. En 1975, le philosophe Michel Foucault avait tenté de le faire dans un essai historique devenu célèbre sur la naissance de la prison. Il l'avait intitulé « Surveiller et punir ». Car ces deux verbes résumaient selon lui ce que la société de l'époque attendait du système carcéral. Un autre philosophe, Paul Ricoeur, voyait dans la prison, je cite, « une détestable solution dont on ne peut pas faire l'économie ». Quant à Robert Van Inter, ancien ministre de la Justice, il déclara un jour « plus vous entassez les gens dans les prisons, plus vous augmentez l'insécurité de demain. Le traitement carcéral nourrit le mal plus qu'il ne le guérit ». Essayons de voir ce qu'en dit aujourd'hui notre société à travers son code pénal. La dernière loi pénale du 15 août 2014, dite loi Taubira, a reformulé les définitions antérieures de la peine de prison dans les termes suivants. Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social. Dans le respect des intérêts de la victime, la peine a fonction, premièrement, de sanctionner l'auteur de l'infraction, deuxièmement, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. C'est l'article 130-1 du Code pénal. De cette formulation un peu complexe, heureusement qu'il y a des virgules, on retiendra que la peine de prison vise cinq objectifs qui dépassent les seuls « surveiller et punir » de Foucault. Je les reprends dans l'ordre du texte. Premièrement, protéger la société des délinquants dangereux. Deuxièmement, prévenir la récidive. Troisièmement, réparer les torts causés aux victimes et à la société. Quatrièmement, sanctionner l'auteur de l'infraction. Cinquièmement, préparer sa réinsertion sociale. Les objectifs de protection de la société et de prévention de la récidive sont énoncés en premier. Cela traduit la demande forte de la société en matière de sécurité et de tolérance zéro vis-à-vis des délinquants. Beaucoup de Français sont persuadés que la prison est la seule solution efficace pour les protéger et rendre justice aux victimes. Mais nous verrons que les choses sont moins évidentes et simples qu'il n'y paraît. Les objectifs de sanction et de réparation sont plus difficiles à appréhender. Pour beaucoup de gens, ils se confondent. Réparer le mal subi consiste à punir celui qui l'a commis. Le vocabulaire traduit bien cette vision. Le mot « peine » est synonyme de « douleur ». Le lieu où on l'exécute est qualifié de « pénitentiaire », mot qui dérive du terme chrétien de « pénitence ». Il va de soi que les condamnés aillent en prison pour payer par une souffrance celle qu'ils ont infligée à leurs victimes. L'antique loi du talion imprègne encore les esprits, œil pour œil, dent pour dent. Mais le droit pénal moderne est heureusement là pour se substituer à la pratique archaïque de la vengeance privée. Il est interdit de se faire justice soi-même. Tout notre système judiciaire est fondé sur les principes de la justice dite rétributive. Elle consiste à rechercher une juste correspondance entre l'infraction commise et la peine prononcée, selon une logique comptable. La loi républicaine tarifie les peines de prison en fonction des préjudices. Mais cette légalisation de la peine n'empêche pas que la privation de liberté soit de fait une forme de violence qui peut nous interroger. Quelle correspondance juste peut-il exister entre la violence illégitime d'un criminel et la violence légitime de la justice pénale? Une peine d'enfermement suffit-elle vraiment à réparer tout ce qui a été dégradé humainement et socialement par le crime ou le délit? D'abord chez la victime, bien entendu, mais aussi chez le coupable. Peut-on se contenter d'une logique purement punitive pour rendre justice aux victimes et préparer la réinsertion du condamné? On voit bien que derrière cette question initiale de l'utilité de la peine de prison se pose en fait la question du sens de cette peine, tant pour les condamnés que pour les victimes. En effet, ils ont au moins en commun d'avoir à se reconstruire et à dépasser le mal subi et commis. Nous reviendrons sur ces questions difficiles au fil de mon propos. J'évoquerai aussi à la fin les perspectives innovantes de la justice restaurative qui a été introduite dans la loi pénale de 2014. L'objectif de préparation de la réinsertion est énoncé en dernier. C'est pourtant l'enjeu majeur pour prévenir la récidive et restaurer l'équilibre social. On note que le législateur parle à la fois d'insertion ou de réinsertion. Cela traduit le fait que bon nombre de personnes détenues n'ont jamais été insérées socialement. Ces personnes relèvent donc de démarches d'éducation, de formation et d'accompagnement particulièrement lourdes. De plus, certains prisonniers souffrent d'addictions ou de troubles psychiatriques qui nécessitent des soins spécifiques. Un rapport parlementaire estimait en 2010 qu'un détenu sur 10 était atteint de troubles mentaux graves tels que la peine ne peut revêtir pour eux aucun sens. Les rapporteurs précisaient que, je cite, « le milieu carcéral peut aggraver les pathologies quand il ne les suscite pas ». Depuis 2012, les personnes les plus atteintes sont suivies dans 9 petites unités pénitentiaires implantés au sein des grands hôpitaux régionaux, les UHSA, unités hospitalières de soins adaptés. Mais les autres personnes sont en cellule, faute de place en hôpital psychiatrique. Les 5 objectifs assignés par la loi aux peines de prison sont donc, on le voit, très ambitieux. Mais peuvent-ils réellement être atteints par le système pénitentiaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui ? Pour tenter d'avoir quelques éléments de réponse à cette vaste et difficile question, je vous propose maintenant une immersion sur le terrain, derrière les murs. Ce sera mon deuxième thème, l'épreuve carcérale. Au-delà des définitions juridiques, les réalités de la prison sont d'abord celles que subissent au quotidien les hommes et les femmes incarcérés. Le sinistre mot « incarcération » est déjà à lui seul tout un programme. Au cours des 8 années que j'ai passées au contact des prisonniers, j'ai appris peu à peu à connaître l'univers carcéral et ses mœurs. Mais j'ai aussi rapidement compris que je ne pourrais jamais appréhender toutes les choses très difficiles que vit et subit une personne détenue au fil des jours, des mois, des années. Seul celui qui vit l'épreuve de privation de sa liberté, c'est le mal-être indicible et les effets néfastes qu'elle produit sur lui et sur ses proches. Les aumôniers peuvent visiter toute personne qui en fait la demande, qu'elle soit croyante ou non. Les aumôniers font partie des rares intervenants autorisés à se rendre dans les cellules dont ils détiennent la clé. Le centre pénitentiaire où j'intervenais comporte une maison d'arrêt qui accueille les prévenus en détention préventive jusqu'à leur jugement, ainsi qu'un quartier de courte peine inférieure à 3 ans, et aussi un quartier de semi-liberté. La capacité initiale de cet établissement est de 596 places, mais il a accueilli jusqu'à plus de 900 détenus en période de pointe. J'intervenais uniquement au quartier des hommes, mais il m'arrivait parfois de participer à l'animation de la messe dominicale pour les femmes. En maison d'arrêt, on peut rencontrer des personnes mises en examen pour tout type de crime et de délit. La cohabitation entre les petits délinquants, les criminels, les tenants du grand banditisme et les adeptes de l'islamisme radical n'est pas sans poser de sérieux problèmes. On assimile depuis longtemps la prison à une école du crime et on y voit aujourd'hui un terreau de la radicalisation. Jusqu'à leur condamnation, tous les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence. Mais cela n'empêche pas que leur détention provisoire puisse parfois se prolonger jusqu'à 2 ans en matière correctionnelle et 4 ans en matière criminelle. Lorsqu'on pénètre pour la première fois dans une prison, on fait l'expérience de ce qu'on appelle le choc carcéral. Ce que ressent le simple visiteur est évidemment sans commune mesure avec ce qu'éprouve le prévenu qui vient d'être incarcéré. C'est pour lui un moment brutal, où toute sa vie bascule pour une durée indéterminée. Du jour au lendemain, il est privé de sa liberté de mouvement et du gouvernement de sa vie. Il est séparé de ses proches. Il perd tous ses repères et éprouve physiquement et mentalement l'enfermement et l'isolement. Il subit le regard omniprésent de ses codétenus, des surveillants et des caméras de surveillance. La promiscuité et le manque d'intimité sont difficiles à supporter. Le silence est rare. Les bruits et les cris se prolongent tard dans la nuit. Les établissements récents sont certes dotés d'un minimum de commodités, comme un cabinet de toilette avec douche et WC dans chaque cellule. Mais leur gigantisme et les systèmes de sécurité omniprésents en font des lieux anxiogènes. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes vivant ce choc carcéral, j'ai pu mesurer à quel point ce moment était critique pour elles et pouvait même exposer les plus fragiles à la tentation suicidaire. Selon une étude de l'INED, un quart des suicides a lieu dans les 2 premiers mois qui suivent l'incarcération et la moitié dans les 6 premiers mois. Les prévenus se suicident 2 fois plus que les condamnés, tandis que le taux de suicide augmente avec la gravité de l'acte commis. Les détenus disent souffrir avant tout de la séparation de leur famille. Ils s'inquiètent des bouleversements que leur emprisonnement soudain a pu provoquer sur la vie de leurs conjoints et de leurs enfants, notamment sur le plan matériel. Si leur détention provisoire se prolonge, ils peuvent perdre leur emploi et leur logement. Leurs proches deviennent des victimes collatérales de l'incarcération et indirectement de leur infraction. Pourtant, le conjoint et les enfants d'un délinquant ne sont pas des délinquants. L'inquiétude du détenu est accrue par les difficultés de communication. Lorsque le parloir lui est autorisé, les règles sont très contraignantes pour ses proches s'il travaille ou habite au loin. Un retard de quelques minutes suffit à l'annuler. Les téléphones portables sont interdits et l'accès aux cabines téléphoniques est réglementé et coûteux. Le courrier est systématiquement contrôlé, hormis celui des avocats et des aumôniers. Le maintien du lien familial est pourtant reconnu comme un des piliers de la réinsertion. En prison, on rencontre aussi des sans-famille. Il y a ceux qui vivaient déjà seuls avant leur incarcération, mais aussi ceux dont les proches n'ont pas supporté leur détention et ont rompu les relations. La gestion du temps et l'oisiveté sont aussi sources de problèmes et de mal-être. Les possibilités de travail salarié en détention sont limitées par manque d'offres. Seuls 28,4% des détenus ont pu travailler en 2017. Les possibilités de formation scolaire et professionnelle interne ne permettent pas non plus de répondre à toutes les demandes. Il en va de même pour les activités culturelles et sportives. Malgré les efforts des associations de bénévoles habilitées à intervenir en détention. Lorsque rien ne lui est proposé, le détenu doit se contenter des 2 heures quotidiennes de promenade et passer les 22 heures restantes en cellule. Sa principale occupation est alors la télévision. S'il a les moyens d'en louer une, et s'il parvient à cogérer la télécommande avec son codétenu. Certains découvrent la lecture et même l'écriture. J'ai rencontré d'authentiques poètes et écrivains en prison. Mais beaucoup de temps est passé à gamberger, à broyer du noir allongé sur son lit, et surtout à attendre. Attendre des nouvelles et des visites de ses proches, attendre les convocations du juge, la visite de l'avocat, la date de son procès, attendre qu'on vienne vous chercher pour la promenade ou une activité, attendre un rendez-vous avec le conseiller d'insertion et de probation ou l'assistante sociale, le psychologue ou le médecin, attendre la réponse à une demande de travail ou de formation. La violence est une autre réalité inhérente à l'incarcération. La violence entre détenus peut aller des simples brimades jusqu'aux agressions sexuelles et parfois au meurtre. Il y a aussi le racket et les agressions punitives contre des personnes ayant commis des crimes particulièrement odieux. Certains détenus n'osent plus sortir en promenade de peur d'être agressés. On déplore également des violences envers les surveillants et le personnel pénitentiaire, avec en retour des sanctions disciplinaires. Dans un rapport de l'Office international des prisons publié en mai 2019, il est fait état de violences émanant aussi d'agents pénitentiaires. Des détenus peuvent aussi se faire violence à eux-mêmes en se mutilant ou en se suicidant. En 2018, il y a eu 103 suicides dans les prisons françaises. Toute cette violence et cette insécurité sont un étonnant paradoxe dans le cadre hyper sécurisé d'une prison. Parmi les causes, il y a la cohabitation et la promiscuité en cellule, actuellement aggravée par la surpopulation de certains établissements. Des cellules individuelles de 9 mètres carrés peuvent y être occupées par 2 ou 3 détenus, avec parfois des matelas par terre. Le droit à l'encellulement individuel prévu par une loi de 1875, pour ceux qui le souhaitent, est loin d'être respecté. Un nouveau programme de création de 15 000 places de prison a été engagé en 2018 pour tenter de rendre ce droit effectif en 2022 tout en résorbant la surpopulation. Les précédents programmes immobiliers n'avaient jamais pu y parvenir. De cette immersion dans le monde carcéral, on peut retenir qu'une peine de privation de liberté n'est jamais chimiquement pure. Elle s'accompagne toujours d'effets néfastes qui déstructurent, désocialisent et infantilisent la personne parfois très rapidement. Perte des repères, perte d'initiative et dépendance, perturbation de la vie affective et sexuelle, dégradation ou refus des relations humaines, altération de l'image de soi, humiliation. Pour les plus jeunes et les plus fragiles, ces effets nocifs peuvent devenir rapidement irréversibles. Beaucoup de détenus en viennent même à parler de double peine. Ils se considèrent paradoxalement comme des victimes. Cette victimisation les empêche d'engager un travail sur eux-mêmes, pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis des vraies victimes et se repentir de leurs actes. A fortiori, ils sont dans l'incapacité de se projeter dans un projet de réinsertion. Pour sortir de cette spirale infernale, la première urgence vitale pour un détenu est de pouvoir parler librement et confidentiellement à quelqu'un qui saura l'écouter avec humanité sans le juger. Le relèvement et la libération intérieure commencent par l'écoute. Cet écoutant peut être un psychologue, un visiteur de prison ou un aumônier, chacun selon sa spécificité. La prise en charge des détenus par l'administration pénitentiaire se heurte à des problèmes chroniques de moyens humains. Les effectifs n'augmentent pas aussi vite que la population carcérale qui explose dans certains établissements. Le taux d'occupation carcérale actuel est de 120% au niveau national et peut atteindre 200% en région parisienne. Les surveillants se concentrent donc uniquement sur leur mission de sécurité, sans pouvoir s'investir réellement dans le suivi personnalisé des détenus. Les conseillers d'insertion et de probation, qui sont chargés de prévenir la récidive et d'accompagner la réinsertion sociale des condamnés, ne peuvent pas non plus faire face à tous les besoins. En moyenne, ils suivent chacun 130 dossiers à la fois, au lieu des 80 préconisés par les instances européennes. Malgré cette surcharge, ils n'ont pas le droit à l'erreur lorsqu'ils doivent évaluer la dangerosité d'un condamné pouvant prétendre à une libération conditionnelle. On se souvient de l'affaire Tony Meillon, qui a commis un viol avec assassinat alors qu'il était en liberté conditionnelle. Au final, il n'est pas exagéré de constater qu'au regard des 5 objectifs fixés à la détention par le Code pénal, le système pénitentiaire a encore bien du mal à sortir de la seule logique « surveiller et punir » que décrivait Foucault en 1975. Le « tout prison » qui prévaut en France depuis de nombreuses années est le reflet des attentes sécuritaires et punitives du donne-part de nos concitoyens. Il n'est pas rare d'entendre des propos du genre « après tout, ils n'ont ce qu'ils méritent, on ne va quand même pas leur offrir des prisons 5 étoiles avec nos impôts ». À cet égard, des études révèlent une grande méconnaissance du monde judiciaire et carcéral par le public. Beaucoup d'idées fausses sont véhiculées par le système politico-médiatique. Certaines affaires criminelles particulièrement révoltantes sont surmédiatisées et instrumentalisées par certains politiciens, alors qu'elles restent heureusement exceptionnelles. Le magistrat Denis Sala parle même d'un populisme pénal. En période électorale, certains candidats n'hésitent pas à présenter la prison comme la seule réponse efficace à tous les problèmes de délinquance et d'insécurité. Or, beaucoup d'études sérieuses en France et en Europe mettent en doute son efficacité pour lutter contre la petite délinquance et dissuader les récidivistes. Comme l'écrit Denis Sala, au fond des prisons, la société enterre ses peurs et croit neutraliser ses risques. C'est malheureusement oublié qu'hormis les 489 condamnés actuellement en réclusion à perpétuité, la quasi-totalité des détenus retrouveront tôt ou tard la liberté. Or, la situation pénitentiaire actuelle se traduit par un nombre important de sorties dites sèches, c'est-à-dire des libérations sans véritable préparation à la réinsertion sociale et professionnelle. J'ai même rencontré des détenus qui redoutaient la sortie. Ils ne se sentaient pas prêts à affronter le monde extérieur. Ils appréhendaient de ne pas savoir revivre en famille et en société. Ils craignaient aussi de retomber dans la galère économique et d'être tentés de renouer avec de mauvaises fréquentations pour survivre. J'en ai même revu qui étaient réincarcérés quelques mois après leur libération. Ils avaient commis un délit suffisant pour retrouver les murs plus sécurisants de leurs cellules. Des progrès sont attendus de la réforme pénale de 2014. Après de longs débats, le législateur a consacré le principe de l'individualisation des peines, c'est-à-dire l'adaptation de la peine en fonction de la personnalité et des capacités de chacun et de son environnement social et familial. Individualiser, c'est déjà resocialiser. Les mesures prévues misent sur la responsabilisation et la réinsertion et ne concernent que les auteurs de délits condamnés à des peines inférieures à 5 ans, soit potentiellement 79% des personnes actuellement incarcérées. Elles ne concernent donc pas les criminels. Leur application est bien sûr soumise à une décision du juge d'application des peines ou du procureur au cas par cas. De grandes innovations sont prévues. La libération sous contrainte. Il s'agit d'une libération progressive avec accompagnement. Ça remplace ce qu'on appelait autrefois les aménagements de peine. Deuxième dispositif, la contrainte pénale, qui est une nouvelle peine alternative en milieu ouvert. Elle est exécutée hors de la prison et permet un contrôle et un suivi. Elle se pratique déjà avec succès aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, où elle porte le nom plus positif de peine de probation dans la communauté. C'est quand même mieux qu'aux contraintes pénales. D'autres mesures législatives de début 2019 vont dans le même sens. Les peines d'emprisonnement inférieures à un an, qui n'empêchent pas la récidive et peuvent être très désocialisantes, peuvent désormais être remplacées par la détention à domicile avec surveillance électronique ou le placement en centre de semi-liberté ou dans une association. Les travaux d'intérêt général vont aussi être développés, notamment pour les jeunes. La mise en œuvre de ces mesures alternatives à la détention nécessite un changement des mentalités et une évolution du système judiciaire, mais aussi la mise en œuvre de moyens humains d'accompagnement supplémentaires. Cela implique de faire des choix et des arbitrages budgétaires. Veut-on réellement développer ces peines alternatives hors les murs qui favorisent la réinsertion et préviennent la récidive ? Ou bien veut-on poursuivre la fuite en avant sécuritaire du tout carcéral pour rassurer l'opinion publique ? Pour compléter cette immersion dans l'univers carcéral, j'aimerais ajouter quelques chiffres particulièrement significatifs. Ils proviennent tous du ministère de la Justice. La population carcérale totale, j'ai déjà cité le chiffre du 1er avril 2019, 71 828 personnes, réparties dans 185 établissements pénitentiaires. En 2018, alors là, ça va peut-être vous surprendre, en 2018, les femmes ne représentent que 3,7% des détenus. Vous ferez les réflexions et les commentaires que vous souhaitez. En 2018, les moins de 40 ans représentent 73%, avec 29% pour la tranche 30-40 ans. Donc c'est vraiment massivement les jeunes qui sont en prison. Les courtes peines inférieures à 5 ans sont très majoritaires. Elles concernent 79% des personnes détenues, avec 45% des détenus qui exécutent des peines inférieures à un an. C'est la petite délinquance tout à fait classique. Les longues peines supérieures à 5 ans concernent donc 21% des détenus, avec 66% d'entre eux qui ont des peines de 10 à 20 ans, 13% de 20 à 30 ans, et la réclusion à perpétuité ne concerne que 489 personnes, soit 0,06% du total général. Si on regarde la répartition des détenus selon le type d'infraction, la grande majorité des détenus, 76%, sont condamnés donc pour des délits. 32% vol, recel, atteinte aux biens, 18% coups et violences volontaires, 18% infraction sur les stupéfiants, 8% circulation routière. Les criminels sont très minoritaires, donc 21%, avec 10% pour les homicides et 11% pour les viols et agressions sexuelles. La récidive n'est pas facile à quantifier avec précision, mais toutes les études statistiques montrent qu'elle est toujours moindre après des sanctions non carcérales. Nos voisins allemands, danois et néerlandais aboutissent au même constat. En France, cette question est devenue polémique dans les milieux judiciaires et politiques. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a commandé récemment une expertise approfondie qui sera livrée en 2020. Le coût d'une journée de détention est d'environ 100 euros par personne. Un placement en centre de semi-liberté coûte 60 euros. Un placement à l'extérieur auprès d'une association, 30 euros. Une journée sous surveillance électronique, 10 euros, soit un rapport de 1 à 10 par rapport à la détention. En 2018, il y avait 9907 condamnés qui en bénéficiaient. Je voudrais maintenant aborder mon troisième et dernier thème, que j'ai intitulé « Du relèvement à la réinsertion ». J'ai mis l'image que j'ai mise là en exergue, c'est le logo de l'aumônerie catholique des prisons. Ce que nous venons d'observer à l'intérieur des prisons a confirmé l'enjeu humain et sociétal crucial que représente le relèvement des personnes détenues et leur préparation à la réinsertion. Nous avons vu qu'au-delà de la sécurité, leur prise en charge demande des moyens d'accompagnement importants et variés, et que ceci n'augmente pas aussi vite que la population carcérale. C'est pourquoi les associations d'aide aux détenus sont reconnues comme des partenaires incontournables par l'administration pénitentiaire. Les aumôneries des différents cultes en font partie. Les aumôneries sont officiellement présentes en prison au titre de la loi de 1905 sur la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Selon le code de procédure pénale, chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire, je cite, pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Les aumôniers des principales religions et spiritualités, catholiques, protestants, orthodoxes, israélites, musulmans, bouddhistes, sont donc agréés pour intervenir en détention afin d'assurer les offices religieux et l'assistance spirituelle pour les personnes qui le demandent. C'est au titre de cette fonction d'assistance spirituelle prévue par la loi que l'aumônerie catholique essaie d'aider les détenus à se relever et à se préparer à leur réinsertion. Ces orientations nationales se déclinent selon trois grands axes. Premier axe, accompagner la personne détenue en l'invitant à relire son itinéraire, à apprendre à se connaître, à se remettre en question, à accepter la responsabilité de ses actes, à reconnaître la souffrance des victimes, à retisser des liens, à croire en la possibilité d'un avenir. Deuxième axe, proposer aux personnes détenues l'expérience d'une vie fraternelle fondée sur l'entraide et l'attention prioritaire aux plus isolés, aux étrangers. Troisième axe, participer au débat citoyen pour faire connaître les conditions de détention et les enjeux de la réinsertion. C'est un peu ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment. Au 1er avril 2016, l'aumônerie catholique comptait 665 aumôniers, dont 70% de laïcs, 15% de prêtres, 8% de diacres permanents et 5% de religieux ou religieuses. Un tiers des aumôniers sont des femmes. Avant d'obtenir son agrément officiel du ministère de la Justice, chaque aumônier catholique doit effectuer un stage probatoire d'environ 3 mois dans l'établissement pénitentiaire envisagé, en accord avec son évêque. Lorsque l'agrément est accordé par l'administration pénitentiaire, l'évêque envoie une lettre de mission au nouvel aumônier. Son mandat ne peut excéder 12 ans, 4 fois 3 ans, avec une limite d'âge à 75 ans. Tous les aumôniers sont bénévoles, mais dans chaque établissement, l'un d'entre eux est indemnisé par l'administration pénitentiaire et reverse son indemnité à l'association diocésaine pour couvrir les frais de fonctionnement de l'aumônerie, essentiellement des frais de transport et des fournitures. Les prisonniers qui fréquentent l'aumônerie peuvent être des croyants pratiquants de longue date, des recommençants qui veulent redécouvrir et vivre la foi chrétienne, ou des personnes en recherche de sens à partir de l'épreuve qu'ils vivent. Tous viennent chercher un soutien et une écoute fraternelle. Lors d'un échange, l'un d'entre eux nous a dit « L'aumônerie apporte un premier contact humain dans un univers déshumanisé. Ici, je suis écouté, accueilli, consolé comme je ne l'ai jamais été. Je sais qu'on peut vider son sac à l'aumônerie. Pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur sans être jugé, c'est un grand soulagement. » Un autre a ajouté, « En détention, nous les chrétiens, nous vivons comme des frères. Au plus profond de moi, je me sens libre, malgré que je sois en prison. Oui, ma foi me libère de tout enchaînement. » Les principaux modes d'intervention des aumôniers sont l'animation de groupes, l'accompagnement individuel des personnes, les célébrations eucharistiques et les sacrements, notamment la réconciliation, un baptême. Là, vous avez une photo d'un baptême qui a eu lieu à Seyss il y a quelques années, et la confirmation aussi. Les principaux modes d'animation donc sont ceux-là. Les groupes d'aumônerie peuvent prendre des formes diverses. Groupes de partage biblique, catéchèse, groupes de prière, équipe de préparation et d'animation de la messe dominicale, chorale, rencontre œcuménique avec les autres confessions chrétiennes, rencontre interreligieuse. Un des enjeux importants est de favoriser la rencontre des autres et de libérer la parole, car la parole guérit. Pour beaucoup de participants, il s'agit d'une première expérience authentique d'église. Pour ma part, j'animais une fois par mois un groupe d'une quinzaine de personnes qui se réunissaient le samedi matin pendant 2 heures pour préparer la messe du dimanche. La première heure, on travaillait les chants liturgiques et les détenus appréciaient beaucoup le chant choral qui les apaisait et les rapprochait. La deuxième heure était un temps de lecture et de partage des textes bibliques de la messe. Cela permettait d'aborder librement des sujets et des questions en prise directe avec ce qu'ils vivaient. Dans ce lieu si particulier, on redécouvre à quel point l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle pour les pauvres et les pécheurs. Il répond très fortement à l'immense attente de respect, de compréhension, de miséricorde et de pardon que l'on perçoit dans les échanges avec et entre les détenus. Je peux témoigner avoir été souvent interpellé, émerveillé et évangélisé au cours de ces partages du samedi matin. L'accompagnement individuel des personnes est au cœur de la mission des aumôniers. Il s'agit d'offrir à ceux qui le souhaitent un espace de parole confidentiel dans un climat de confiance, d'écoute et de gratuité où ils ne se sentiront pas jugés. Les entretiens se déroulent le plus souvent en cellule ou dans un parloir quand il y a un co-détenu. En cellule, on est reçu chez quelqu'un qui vous attend et qui est heureux de pouvoir vous offrir un verre d'eau ou un café. Ce qui va se passer est toujours imprévisible. On peut rester dans la simple relation humaine et parler du quotidien et de la famille. Il m'est arrivé aussi de me taire pendant de très longs moments pour écouter une personne qui avait seulement besoin de crier sa souffrance et sa révolte jusqu'à plus soif. Avec le temps et l'instauration de la confiance, un dialogue vrai et profond peut s'engager et permettre à la personne de décharger son fardeau et d'entrer dans une démarche de questionnement et de travail sur elle-même et sur ses actes. La dimension spirituelle est aussi présente à travers le partage de textes et la prière. Les aumôniers n'ont accès à aucun dossier sur les personnes qu'ils visitent. On peut donc accompagner une personne pendant plusieurs mois sans rien savoir des raisons de sa détention, provisoire ou définitive. Les seuls éléments dont on dispose sont ceux que la personne elle-même va vous confier, spontanément et progressivement au fil des entretiens. Il m'est arrivé d'entendre des détenus me raconter leurs crimes en détail dès le premier entretien. D'autres m'ont parlé pendant des heures de l'erreur judiciaire dont ils s'estimaient victimes. Les prévenus en attente de jugement sont souvent dans le déni partiel ou total de leurs actes. Les variations de leur discours d'un entretien à l'autre permettent de s'en apercevoir. Dans ces rencontres avec les détenus, on est confronté à la grande solitude, à la fragilité, à la précarité, à la mésestime de soi, à la culpabilité mortifère, à la désespérance. On se trouve aux périphéries existentielles dont parle souvent le pape François qui connaît bien le monde carcéral. Ce qu'on entend en prison est souvent difficile. L'inhumanité de certaines situations m'a parfois laissé abasourdi. Cela suscite des interrogations douloureuses sur l'homme, et son mystère, sur le scandale du mal et la souffrance, sur la violence et ses racines, sur notre société, ses inégalités, ses injustices, ses exclusions. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme bascule un jour et commet un crime irréparable ou s'installe dans la violence et la délinquance? Les personnes que j'ai rencontrées étaient souvent abîmées depuis leur enfance par l'absence d'amour parental et d'entourage familial, par le manque d'éducation et de repères, par les violences subies, par l'exclusion sociale. De façon irrépressible, certains avaient refait à d'autres ce qu'ils avaient eux-mêmes subi ou vu faire durant leur enfance. C'est souvent le cas en matière de pédocriminalité et de violences conjugales et familiales. Pour Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur des lieux de privation de liberté, la société carcérale, c'est massivement la face pauvre du pays. Lors de ces rencontres, on se sent parfois démuni et impuissant. Et il faut alors accepter, avec humilité, de n'être qu'une simple présence écoutante auprès d'un frère en humanité. Mais c'est souvent dans ces moments de pauvreté partagée que de belles choses peuvent advenir. On ne sort pas indemne de ces rencontres aux limites de notre humanité abîmée par le mal. Qui suis-je pour juger ? Qui n'a jamais louvoyé avec la loi et la ligne jaune ? Qui n'a jamais pactisé avec la violence ? Il est précieux de pouvoir débriefer en équipe d'aumônerie et de reprendre souffle dans la prière. Dans la foi, on essaie de voir dans les personnes rencontrées le Christ souffrant de l'évangile de Matthieu. « J'étais en prison et vous êtes venu à moi. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parole est à la source de la mission d'aumônier. Elle peut devenir prière avant d'entrer en cellule. Seigneur, passe devant. On peut vivre des moments très forts de grâce et de joie. Lorsqu'une personne commence à sortir de son silence ou du déni dans lequel elle s'enfermait depuis des mois, son entrée dans un chemin de vérité, de responsabilisation et de repentir par rapport à son acte et à sa victime est décisif. Ce passage de la culpabilité mortifère à la responsabilité assumée va lui permettre de se relever et d'envisager la construction d'un avenir. Je pense à ce jeune qui lisait la Bible en prison. Il avait été profondément interpellé par l'Épître aux Romains, où saint Paul déclare « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Il avait arraché la page et l'avait envoyée à son juge, en lui demandant d'en tenir compte dans l'instruction de son dossier. Il voulait à tout prix réparer le mal qu'il avait commis. Nous avons eu un bel échange sur la complémentarité entre la justice des hommes, soucieuse des victimes et de la paix sociale, et la justice de Dieu, comme chemin de repentance, de miséricorde, de pardon, de libération de la haine et de la violence. J'ai aussi été particulièrement touché par cet homme en détention provisoire que j'ai accompagné pendant plus de 2 ans sans savoir ce qu'il avait fait. Je pressentais des actes de violence. Ce n'est qu'après son procès aux assises que j'ai appris par la presse qu'il avait été jugé pour une tentative d'assassinat avec préméditation de son épouse. Rétrospectivement, j'ai compris qu'il s'était enfermé dans le déni, le mensonge et le louvoiement avec la justice pendant des mois. Mais paradoxalement, il s'était mis à lire la Bible et venait régulièrement à la messe. Il aimait aussi discuter de philosophie et de spiritualité. C'est finalement le jour de son procès aux assises qu'il a décidé de reconnaître et d'assumer totalement ses actes. Lorsque je l'ai revu quelques jours après, il m'a dit qu'il avait fini par comprendre qu'il devait faire publiquement la vérité pour permettre à son ex-épouse et à ses enfants de se reconstruire. Malgré la lourde peine qui venait d'être prononcée, il était libéré et pacifié d'avoir su faire la vérité et d'avoir ainsi à commencer à réparer le mal qu'il avait commis. Il espérait être autorisé à revoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans. Il commençait à parler de ce qu'il aimerait faire à sa libération. Des exemples comme cela ne sont pas rares. Ils renforcent la conviction qu'on ne peut jamais réduire une personne à l'acte qu'elle a commis, aussi grave soit-il. Tu n'es pas uniquement ce que tu as fait. Tu vaux mieux que tes actes. Il faut tenter d'aider la personne qui a commis un crime ou un délit à découvrir ou à redécouvrir qu'au-delà de ses zones d'ombre et de culpabilité, elle porte aussi en elle, comme tout homme, comme toute femme, des valeurs positives et des qualités sur lesquelles elle va pouvoir s'appuyer pour se relever. L'enjeu est de redevenir un homme ou une femme réellement libre, c'est-à-dire capable d'assumer ses responsabilités en société et en famille. Pour continuer dans la voie de l'espérance, je voudrais évoquer pour terminer la justice restaurative que j'ai mentionnée au début à propos de la réparation des torts causés aux victimes. Cette démarche très innovante a été introduite dans la réforme pénale de 2014 et constitue une avancée majeure. Elle est pratiquée depuis 30 ans au Canada, où on l'appelle justice réparatrice. La Belgique et la Suisse la pratiquent également. Le principe de cette démarche est de restaurer autant que possible ce qui a été abîmé humainement, familialement et socialement par un crime ou un délit. D'abord chez la victime et dans la société, mais aussi chez le coupable. Pour le pasteur Brice Desnier, aumônier national protestant des prisons, je cite « La justice restaurative postule que le délit ou le crime, avant d'être la transgression d'une loi, sont la rupture d'un lien. Lien avec l'autre comme victime, lien avec la famille, la société. » La justice restaurative ne conteste pas la nécessité qu'une peine soit prononcée pour marquer la transgression de la loi et mettre l'infracteur en face de celle-ci, mais la justice restaurative postule que c'est insuffisant pour reconstruire les liens brisés et restaurer l'harmonie sociale. La justice restaurative se concrétise principalement par des rencontres entre des auteurs d'infractions et des victimes. Il ne s'agit pas nécessairement d'un face-à-face entre une victime et son propre agresseur, qui est souvent extrêmement difficile. Au début, les rencontres se font plutôt entre des victimes et des condamnés concernés par un même type d'infraction, par exemple le viol. Cela se fait avec le soutien de médiateurs et de psychologues sur la base du volontariat et sans contrepartie pour le condamné. Il ne peut rien espérer en termes de réduction de peine, etc. Ces rencontres peuvent permettre à l'auteur d'un crime de prendre conscience du mal qu'il a causé à sa victime ou à ses proches. On s'est rendu compte que souvent c'était pour lui quelque chose d'extrêmement abstrait et le procès aux assises ne suffit pas à toucher du doigt la réalité de cette souffrance. Les victimes directes ou indirectes peuvent, quant à elles, poser toutes les questions qui les rongent et se décharger de la haine qui les habite et les détruit. Il peut arriver dans certains cas, et avec du temps, que cette démarche se poursuive jusqu'au pardon demandé et accordé. Mais cela ne fait pas partie du processus de la justice restaurative proprement dit. C'est l'exemple rare et bouleversant d'un couple qui, au terme d'un cheminement de plusieurs années, a pu accorder son pardon à un jeune chauffard qui avait tué leur fille sur un passage clouté. C'est aussi le cas poignant de ce père qui, au bout d'un long cheminement, a été capable de pardonner le meurtrier de son fils. Il a découvert que pardon et libération, c'est le même mot en grec. Cela veut dire que quand on pardonne, on se libère. On se libère de la haine qui est un poison et on libère aussi l'autre. Sur cette note d'espérance, je voudrais laisser le mot de la fin au pape François qui connaît bien le monde carcéral. Il reste même en contact avec des personnes détenues qu'il visitait en Argentine. Il leur téléphone. Lors d'une rencontre en 2013 avec les aumôniers de prison italienne, il les invitait, je cite, à œuvrer pour une justice de réconciliation, une justice d'espérance, de porte ouverte, d'horizon. Cela n'est pas une utopie, cela peut se faire.